Ce soir, on va voir un nouveau sujet sur le thème mythe ou vérité. Et c'est la notion de ce que j'ai appelé le négationnisme. Négationnisme, c'est des gens qui nient l'existence de quelque chose. Et en l'occurrence, il y a des gens qui vont vous dire que l'enfer, mais ça n'existe pas. Ou l'enfer, si ça existe maintenant, ça disparaîtra plus tard. Il y a des gens qui disent que l'âme des gens qui vont aller au paradis, eux, ils vont vivre éternellement, mais ceux qui vont aller en enfer, oh ben non, l'âme, elle va disparaître aussi. Alors, on va voir justement différents, tous ces sujets-là, mythes ou vérités par rapport au négationnisme de l'enfer. Alors, je vous ai demandé de fouiller dans votre Bible pour chercher Matthieu, chapitre 25. En fait, on aurait pu trouver des dizaines et des dizaines de références par rapport à l'enfer. La Bible en est remplie. Je vous ferai tout à l'heure une succession de petites citations comme ça, en tout cas de références. La Bible parle abondamment de l'enfer. Rappelez-vous la première lecture que nous avions faite, c'était en Luc chapitre 16. Rappelez-vous, c'était l'histoire de deux hommes qui mouraient en même temps. Il y en avait un qui était accueilli dans ce qu'on appelait le Samram, le paradis, et l'autre, il était dans un endroit de tourment. Rappelez-vous de cette histoire. Donc ça montre bien qu'il y a bien une réalité de l'enfer. Mais j'ai voulu prendre ce verset, verset 41 et 46, Matthieu 25, verset 41 et 46, parce que déjà parce que c'est Jésus qui parle. Et s'il y a quelqu'un qui peut être bien placé pour parler de l'enfer et du paradis, c'est bien lui. Parce que par ces versets, Jésus affirme bien que l'enfer existe. Et je trouve qu'au travers de ces mots, il arrive à nous donner les pistes de réflexion pour décrire et pour expliquer ce qu'est l'enfer. Alors Matthieu, chapitre 25, verset 41, pour que nous puissions tous avoir la même référence sous les yeux, il est écrit « Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Et lisons encore le verset 46. « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Ok ? Donc on comprend bien de quoi il est parlé là. Et donc on va voir qu'effectivement, on va vraiment ce soir la développer. La notion de l'enfer. On avait fait la première soirée, on avait développé la thème du paradis. Et alors, on va un peu voir la notion de l'enfer. Ce qui est incroyable, c'est que ceux qui nient l'existence de l'enfer ne se trouvent pas forcément chez les incroyants. Ce qui est incroyable, c'est que même parmi des chrétiens, il y a des gens qui vont vous dire « Non, non, mais l'enfer... Ça n'existe pas. » Et on pourrait se dire, mais c'est incroyable parce que la Bible fournit tellement de versets, d'explications par rapport à ça, qu'on peut se dire, mais comment ça se fait qu'il y ait même des chrétiens, donc des gens qui se revendiquent de croire en Christ et à la Bible, et qui eux-mêmes pourtant vont dire, non, l'enfer, ça n'existe pas. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. C'est qu'il y a eu non seulement des abus de langage, c'est-à-dire des manières de parler qui défigurait la vérité. Et puis, il y a aussi de l'incompréhension pour plusieurs. Alors, dans les abus de langage, un des arguments, c'est de dire que l'enfer a été inventé pour faire peur aux gens. C'est un des arguments. Oh, l'enfer, vous savez, ça n'existe pas! C'est la religion catholique qui a inventé l'enfer pour faire peur aux gens. Et il faut bien le reconnaître. que l'Église catholique, de l'aveu même d'un prêtre avec qui je discutais il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans, a effectivement reconnu que dans les temps anciens, les prêtres, les curés se servaient de l'enfer pour faire peur aux gens. Ils les menaçaient quelque part, au travers de l'enfer. Si vous ne faites pas ça, vous irez à l'enfer. C'était une sorte de menace que l'Église catholique a utilisée pendant des siècles pour faire peur aux gens, afin de manipuler les gens. Dieu n'est pas un Dieu de menace. La Bible, quand elle nous parle de l'enfer, c'est pas pour nous faire peur, c'est pas pour nous menacer. C'est pas pour nous mettre un revolver sur la tempe et dire « Si t'es pas d'accord, gare à toi. » On ne vient pas à Dieu par peur de l'enfer. On vient à Dieu parce qu'on a rencontré un Dieu rempli d'amour. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est parce que l'amour de Dieu a touché premièrement notre cœur que nous l'aimons en retour. On ne va pas vers le paradis parce qu'on a peur d'aller en enfer. On va vers le paradis parce que le ciel nous a été ouvert et qu'on a envie de vivre cette réalité-là. Il n'y a aucune logique divine dans la peur de l'enfer pour amener les gens. D'ailleurs, même dans une relation humaine, quand la relation est fondée sur la peur, c'est pas bon. Et la Bible dit même que là où il y a l'amour, il ne peut pas y avoir la peur. Parce que l'amour même bannit, rejette la peur. Non. Alors ça a été terrible. Ça a été terrible parce que pendant des générations et des générations, les hommes se sont entendus menacés par l'enfer au lieu d'être attirés par l'amour. Et ils ont bien compris qu'effectivement, c'était un moyen de manipulation sur les gens. Et donc, ils ont fini par croire que l'enfer, c'était une sorte de mensonge pour manipuler les gens. C'était tellement vrai que ce même prêtre qui me disait qu'effectivement, l'enfer a été tellement mal utilisé que maintenant, lui-même, en tant que prêtre, quand il enseignait sur l'enfer, sur la réalité de l'enfer, sur ce qui était écrit sur la Bible, les gens ne refusent de l'écouter. Ils mettent leurs mains sur les oreilles ou ils refusent d'accepter la chose parce qu'ils ont tellement été manipulés sur la base de l'enfer que maintenant ils font un rejet total. Mais ce n'est pas parce qu'on rejette une chose, parce qu'elle nous a été mal présentée, que la chose n'existe pas. Un autre argument pour dire que l'enfer n'existe pas, c'est de dire que la Bible ne parle jamais de l'enfer. Et quelque part, c'est vrai. La Bible n'emploie jamais le mot enfer. Alors, peut-être que dans votre Bible, vous trouverez le mot enfer si votre Bible est dit en français courant. Qu'est-ce que c'est que le français courant? Une Bible en français courant, ce sont des Bibles qui ont été écrites en utilisant les mots d'aujourd'hui. Alors, dans ce cadre-là, vous trouverez dans votre Bible le mot enfer. Mais si vous avez la Bible un peu plus ancienne et que surtout vous lisez dans la langue originale, qui est soit l'hébreu, soit le grec, l'hébreu pour l'Ancien Testament, grec pour le Nouveau Testament, vous ne verrez jamais le mot « enfer ». Vous trouverez un autre mot qu'on va expliquer tout à l'heure, mais le vrai mot qui est dans le texte, c'est le mot « GN ». Bizarre comme nom, hein. On n'entend pas souvent ce mot-là, mais on va l'expliquer tout à l'heure. Alors, certains vont dire « Ah, vous voyez, la Bible ne parle jamais de l'enfer ». Donc l'enfer n'existe pas. Vous dites que la Bible parle de l'enfer, mais la Bible ne parle jamais de l'enfer. La Bible parle de l'enfer, mais elle n'emploie pas le mot enfer. Effectivement, elle emploie un autre mot qui est GN. Mais alors d'où vient le mot enfer? En fait, enfer vient d'un mot qui est inférieur. Vous voyez le rapprochement? Enfer, inférieur. Parce que l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 4, verset 9, nous dit que Jésus, une fois qu'il est mort et qu'il est ressuscité, à sa résurrection, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Donc ils nous font comprendre que quand Christ est ressuscité, il est allé dans les régions inférieures de la terre. le dictionnaire littré dit que le mot enfer est un terme ancien. C'est un terme que les anciennes religions polythéistes utilisaient. Le lieu souterrain où habitaient les âmes des morts. De manière générale, les âmes des morts. En fait, il faut réaliser que, à l'époque, dans la conception populaire, les gens qui étaient sauvés allaient au ciel, région supérieure, et que les autres qui n'étaient pas sauvés allaient forcément dans un lieu visuellement inférieur. Alors évidemment, ce sont des conceptions d'esprit, parce que nous le verrons tout à l'heure, nous ne parlons pas de lieu physique en tant que tel, étant donné que ce qui est sauvé, ce sont nos âmes. Et la notion de limite d'espace et de temps, dans le monde physique, oui, ça existe, mais dans le monde spirituel, la notion d'espace et de temps n'a pas de rapport comme ça. Donc c'est une manière imaginée, c'est une conception humaine de considérer que, et c'est pour ça que la Bible utilise cette expression, Dieu est au ciel, et d'imaginer que les morts sans Dieu sont dans une région inférieure, comme pour distinguer effectivement le ciel et l'enfer. Mais on sait bien que la région inférieure, sous-entendu dans la terre, bien sûr qu'il n'y a pas d'âme dans la terre. La terre est une boule, on sait qu'il y a du magma, mais ce ne sont pas là que les âmes sont. Les âmes sont dans un lieu spirituel. Alors, quand on parle de l'enfer, en fait, on désigne un lieu inférieur par rapport à un lieu supérieur qui est défini comme le ciel. Vous comprenez ? Donc, quand on parle de l'enfer, dans le ciel, qui est l'expression souvent utilisée là dans la Bible, dans les cieux. Quand on parle de l'enfer, on parle en fait d'un endroit qui se distingue du ciel, qui n'est pas dans le ciel et qui est plutôt justement une image d'enfermement, d'infériorité. Alors, c'est un autre sujet. Alors, on utilise aujourd'hui le mot enfer parce que c'est le mot le plus familier, le plus commun. Aujourd'hui, quand on parle de l'enfer, tout le monde comprend que c'est le lieu où les gens qui ont refusé Dieu habitent, et là où Dieu n'existe pas, là où Dieu est exclu. Donc aujourd'hui, on utilise le mot enfer parce que c'est bien plus parlant que de reprendre l'expression grecque GN. Alors certains disent encore que l'enfer n'existe pas parce que la description qui est faite de l'enfer, c'est trop grotesque, c'est trop caricatural. C'est une description qui ne correspond pas à la réalité. Voyons l'enfer avec les flammes et le diable tout en rouge avec une fourche et une queue pointue. C'est n'importe quoi. Voyons. Oh, c'est pas ça l'enfer. Non, ça n'existe pas. Déjà, je trouve que c'est très dangereux de dire qu'une chose n'existe pas parce qu'on ne la conçoit pas comme ça. Déjà. Même si c'est caricatural. Même si, on va le voir effectivement, même si j'acquiesce que le diable n'est pas un petit diablotin avec des petites cornes en rouge. Et c'est vrai que ça a été terrible parce que ça a discrédité le message de l'évangile. Ça a jeté un mauvais regard, ça a tordu le sens et la compréhension de l'enfer. C'est vrai que ce n'est pas ça. Mais quand même, quand bien même est-ce que la description est grotesque, quand bien même est-ce qu'on ne la concevrait pas comme ça, c'est pas une raison pour dire que ça n'existe pas. Déjà, c'est déjà une première chose importante de réaliser que ce n'est pas parce qu'une conception ne colle pas à ce que nous, on pense, que la chose, il faut la refuser. Alors, la description du diable, effectivement, elle n'est pas telle qu'elle a été décrite, parce que la Bible nous dit au contraire que le diable était un ange resplendissant de lumière. S'il y a bien quelque chose qui est très beau, c'est le diable. C'est le diable lui-même. Alors, effectivement, et c'est vrai, qu'il y a eu dans ce monde des représentations caricaturales de l'enfer, des démons, du diable lui-même. C'est vrai que dans l'enfer, il n'y a pas de véritable flamme qui brûle. Rappelons-nous, on est en train de dire que c'est une chose, qu'on est dans un monde spirituel. Un esprit, ça ne lui fait rien du tout, une petite flamme. Nous, ça nous fait quelque chose parce que nous sommes de matière. Et la matière agit sur la matière. Mais la matière ne peut rien faire sur un esprit, rien du tout. Alors effectivement, ce sont des images. Quand il nous est dit, et quand Jésus parle d'un feu qui ne s'éteint pas, Jésus veut surtout donner une image, une représentation de l'atmosphère du ciel. On a tous été brûlés au moins une fois dans notre vie. C'était désagréable, c'était piquant, c'était blessant. C'est cela l'enfer. Au-delà du fait d'être brûlé par une flamme. Mais c'est l'atmosphère que ça dégage. C'est cette douleur, c'est cette souffrance que l'on ressent. Cet agacement. C'est quelque chose qui fait que même quand on froid, ça nous fait mal de l'intérieur. Et Jésus emploie exactement cette image. Afin que nous comprenions que l'enfer doit être le lieu que l'on doit éviter. L'enfer est une description imagée. Et quand on lit la Bible, il y a plein de situations, il y a plein de choses où Dieu est obligé d'utiliser des images pour nous faire comprendre les choses. Regardez les paraboles. Jésus parlait beaucoup par images pour nous faire comprendre des réalités spirituelles. Et quand on parlait du paradis, l'apôtre Paul lui-même le disait, il a été élevé dans le paradis et il explique lui-même que ce qu'il a vu, il ne peut pas le raconter. Ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, il ne trouve pas les mots justes pour le décrire. Donc quand il y a des descriptions de l'enfer, effectivement, ce n'est pas une juste réalité, ce n'est pas une juste représentation, mais ce sont des images pour nous faire comprendre à quoi ça ressemble. Alors, pourquoi quand même est-ce que Jésus a utilisé l'image du feu ? Il aurait pu utiliser d'autres images. Mais là encore, il faut savoir que, et on va faire un petit peu d'histoire, que Jésus a utilisé une image que les gens de l'époque comprenaient très 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 bien. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un endroit à côté de Jérusalem, et vous allez comprendre là maintenant l'origine du mot « GN ». Il y avait à côté de Jérusalem une vallée qui s'appelait « Inon ». Et en hébreu, vallée de Inon, ça se dit Gé-Inon. Et si on francise un peu, G-N. Et dans cette vallée-là, qu'est-ce qui se faisait ? Et bien dans cette vallée-là, historiquement, hein, il y avait des hommes et des femmes qui sacrifiaient leur enfant à un dieu qui s'appelait Moloch. Et ce dieu Moloch, c'était une grande statue qui avait les bras, les avant-bras tendus comme ça. Et ces gens déposaient leurs enfants, leurs nouveau-nés, sur les bras de cette statuette Moloch. Et ils mettaient le feu à leurs enfants. Vous vous rendez compte ? Ils sacrifiaient par le feu leurs propres enfants. Ce n'est pas que ça. Dans la suite des temps, cette même vallée, cette vallée de Inon, c'est Gé-Inon, c'était devenu une décharge publique. Tout Jérusalem et les villages autour allaient déverser leurs ordures ici. Et évidemment, qu'est-ce qu'on fait dans une décharge ? On met aussi le feu pour que les choses puissent se détruire avec le temps. Et c'est pour ça qu'il y avait dans cette vallée un feu qui brûlait constamment pour détruire toutes les ordures. Vous imaginez l'odeur ? Vous aimez l'atmosphère de ce lieu-là ? C'est pourquoi Jésus disait aux gens que s'ils ne se repentaient pas, ils iraient dans la Géhenne. Donc les gens, quand Jésus leur parlait de la Géhenne, ils comprenaient l'image. Ils voyaient ce lieu qui historiquement était déjà connu pour des sacrifices humains, qui sentait la pourriture, ce lieu dans lequel on déversait les ordures, ce lieu dans lequel il y avait toujours une sorte d'atmosphère pourrie, ce lieu où il y avait toujours un feu qui brûlait des choses, qui traînait. Et Jésus menaçait les gens. Vous irez dans ce feu qui ne s'éteint pas, ce feu qui brûle jour et nuit.
si vous ne changez pas de comportement.
Alors vous voyez comment le mot GN vient du mot Géion.
GN.
Et l'enfer, effectivement, est un lieu de feu permanent, un lieu dégoûtant, un lieu de souffrance, un lieu de puanteur, un lieu horrible. Je vais vous permettre de rajouter quelques descriptions. Daniel, chapitre 12, verset 2, nous dit que l'enfer, c'est un lieu de honte. Apocalypse, chapitre 14, verset 10, nous dit que l'enfer, c'est un lieu où il n'y a pas de repos. Matthieu 8, verset 12, nous décrit l'enfer comme un lieu de ténèbres. Romains, chapitre 2, verset 9, nous décrit l'enfer comme étant un lieu d'angoisse. Matthieu, chapitre 22, verset 13, décrit ce lieu de l'enfer avec des peurs, du regret, des larmes et des grincements de dents. Est-ce que vous avez envie d'aller en enfer ? En résumé, ce que nous devons comprendre, c'est que le paradis, c'est la présence de Dieu avec tout ce qui vient de Dieu. Le paradis, c'est l'endroit où la personnalité de Dieu se dégage. Et donc, il en résulte du paradis tout ce qui sort de Jésus. L'amour, la paix, la joie, la grâce, le bonheur, la lumière, la pureté, la liberté, la douceur, la compassion. Tout ça, c'est dans le paradis. Et l'enfer, c'est quoi ? C'est tout ce qui relève du caractère de l'absence de Dieu. Tout ce qui relève du péché. Tout ce qui relève du fruit du refus de Dieu. Et il reste quoi ? Les ténèbres, la tristesse, le mensonge, l'orgueil, la peur, la violence, la méchanceté, les cris, la solitude, l'abandon, les angoisses. C'est ça l'enfer. Ne croyez pas qu'effectivement il y a des petites flammettes qui sont là et un petit bonhomme qui est là avec un trident. Évidemment que ce n'est pas ça la représentation de l'enfer. C'est une caricature grossière. Mais même si elle est caricaturale, ne minimisons pas l'enfer. L'enfer est le résultat du péché, comparable à cette décharge à ciel ouvert, où il n'y a que puanteur, horreur et abomination. Certains disent encore que non, Dieu est trop bon. Dieu est trop bon pour que l'enfer existe. C'est tellement horrible, c'est tellement moche, c'est tellement dégradant. Non, Dieu est trop bon pour que les gens aillent en enfer. Ça, c'était ce qu'on avait vu la dernière fois. La bonté de Dieu. Ah, le bon Dieu nous pardonnera. Mais le problème, c'est que dans notre histoire, il n'est pas question de juger la bonté de Dieu, mais de juger nos péchés. Jésus, quand il nous parle de l'enfer, c'est pas pour nous menacer, mais c'est pour nous prévenir. Le salaire du péché, c'est la mort. Si vous ne convertissez pas, vous mourrez dans vos péchés, a dit Jésus. C'est simple. Il n'est pas là pour menacer les gens, mais il prévient. Il prévient que non seulement aujourd'hui, c'est la pourriture dans votre âme, mais cette pourriture va continuer à se gangréner. Vous avez déjà vu un fruit quand il commence à être un peu pourri ? Vous attendez pas à ce qu'il se soigne tout seul. La pourriture continue de le gagner jusqu'à ce qu'il soit complètement imbuvable. Et que cette pourriture gagne les autres fruits. C'est exactement pareil avec le péché. La bonté de Dieu n'est pas remise en cause. Quiconque veut voir la bonté de Dieu n'a qu'à ouvrir les yeux et voir tout ce qui se passe. Lire la Bible et s'apercevoir que Jésus a prouvé son amour. Non, la bonté de Dieu n'est pas à remettre en cause. Si Dieu est bon, Dieu est tellement bon que non, il ne permettra pas. Mais ça n'a rien à voir. Vous connaissez la politique de l'autruche ? On parle de la politique de l'autruche, ce sont les gens qui ne veulent pas voir la réalité en face. Alors là aussi, on représente souvent l'autruche, la tête dans le sable. Et puis, j'ai une grand-mère un peu comme ça, vous savez, à 70 ans. Ma grand-mère faisait encore des rallyes de voitures de Porsche. Véridique, à 70 ans. C'est incroyable. Et pourtant, ma grand-mère, elle n'a jamais fait du vélo. Ben, c'est bizarre. Comment est-ce que à la fois elle était capable à 70 ans de rentrer et de faire des concours de voitures de course, le bolide dans les talus, et qu'elle pouvait pas faire du vélo? Parce que ma grand-mère, toute sa vie, a fait la politique de l'autruche. En fait, ma grand-mère n'a jamais fait de vélo parce que dès que ça va un peu trop vite, elle ferme les yeux. C'est pratique. Alors c'est pratique quand on est dans une voiture et que c'est l'autre qui conduit. Dès qu'il y a un danger, on ferme les yeux et on fait tout le circuit les yeux fermés. Et après, on la voit, la grand-mère, sortir de la voiture. C'était trop bien. Oh, la grand-mère, 70 ans, elle fait encore des rallyes. Mais oui, elle a fermé les yeux chaque fois que ça faisait ça, ça, ça. Alors c'est sûr, comme ça, on voit pas le danger. Nous, les enfants, on transpirait dur. Mais n'empêche que le problème, c'est que dès qu'elle montait sur un vélo et qu'il y avait un arbre, elle fermait les yeux. Alors, vous comprenez qu'elle n'a pas fait beaucoup de vélo. Elle n'a jamais conduit. Et oui, et ça c'est la politique de l'autruche. Oh non! Dieu est tellement bon qu'il ne permettra pas que l'enfer existe. Alors on ferme les yeux. Non, non, non! C'est tellement horrible qu'on ne va pas voir ça. Oh non, c'est tellement horrible l'enfer. Non, non, ça ne doit pas exister. Mais c'est pas parce qu'on va fermer les yeux que l'enfer ne va pas exister. Dieu est bon. Il a ouvert le ciel pour tous les êtres humains. Vous pouvez y aller. Et ce n'est pas parce que Dieu est mauvais ou qu'il est bon. L'enfer existe. Alors pourquoi est-ce que l'enfer existe? C'est peut-être ça la question aussi à laquelle il faut répondre. Ce n'est pas une question de bonté, mais c'est une question de séparation. Sur la terre, nous connaissons l'influence de Dieu et l'influence du mal, du diable. Dans une même journée, on peut connaître des moments de joie et des moments de grande tristesse. Dans une même journée, on peut être très content et très triste. Dans une même journée, on peut se faire très mal. Et on peut aussi être consolé. Dans une même journée, dans une même vie, on va connaître des moments de joie, de bonheur, de félicité. On a. Et puis dans une même vie, on va connaître des moments de dépression, de solitude, de souffrance, pas croyable, n'est-ce pas? Mais le ciel, le paradis, la Bible nous dit, il n'y aura plus pleurs, ni larmes, ni chagrin. Il n'y aura plus de tout ça. Et comme on l'a vu, et au contraire, au paradis, en enfer, bah, ce sera tout l'inverse. Si tout le bonheur est au ciel, et qu'est-ce qui reste pour le paradis? La question du paradis et de l'enfer, ce n'est pas une question de bonté, c'est une question de séparation. On l'a lu tout à l'heure, Matthieu 24, verset 41. Jésus le dit très clairement. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. L'enfer a été préparé, c'est-à-dire il est réservé. Dieu a créé l'enfer pour que le diable y aille. Comment on pourrait un seul instant imaginer que le paradis soit le paradis si le diable peut y rentrer? C'est foutu. Il a déjà l'accès sur la terre et on voit bien le carnage qu'il fait. Alors il faut bien séparer l'enfer du paradis. Il est préparé pour le diable. Il est préparé, comme Jésus le dit, pour ses anges, pour les démons. Et il est préparé, réservé, pour ceux qui suivent le diable, les démons. Tout simplement. Ce n'est pas une question de bonté, c'est une question de séparation. Est-ce que quand vous allez au zoo, est-ce que dans la même cage, vous voyez le lion et l'agneau? Mais non! On met le lion dans un endroit et l'agneau à côté, sinon le zoo il va pas durer longtemps. Mais c'est pareil. Est-ce qu'on peut imaginer une cohabitation dans un même lieu, dans une même salle, entre un violeur et sa victime, sans qu'entre deux il y ait eu réconciliation? C'est pas possible. Est-ce que ce serait possible de mettre dans le même lieu une victime et son assassin sans qu'entre deux il y ait réconciliation? Ça arrive. Il y a de très belles choses, des hommes et des femmes qui ont fait aveu, repentance, qui se sont humiliés devant leur victime Et quelque chose s'est restauré. Il y a même des magnifiques témoignages, même de chrétiens qui ont été victimes. Et elles ont passé outre, elles sont allées au devant de leur bourreau. Elles ont leur dit qu'elles leur pardonnent. Il y a des histoires de réconciliation extraordinaires par la grâce de Dieu, par la bonté de Dieu. Mais s'il n'y a pas cette bonté, s'il n'y a pas cette réconciliation, est-ce qu'on peut imaginer un seul instant que bourreau et victime cohabitent là comme l'air de rien, comme si tout était normal? Bien sûr que non. Il y a la souffrance. Alors, l'enfer et le paradis, c'est pas une question de bonté, c'est une question de séparation, c'est une question de justice. Sur cette terre, quand il y a cohabitation entre le mal et le bien, on s'aperçoit que c'est l'injustice qui règne. C'est toujours là, comme on reprend l'image de tout à l'heure, le fruit pourri qui gâte le bon fruit. L'enfer, c'est une prison spirituelle, tout simplement. Comme on enferme les lions quand ils sont trop dangereux. L'enfer, c'est une prison. Pour tous ceux qui refusent de vivre près de Dieu. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une fatalité d'aller en enfer. Dieu a ouvert le ciel, Christ est mort pour nos péchés. Dieu a tout accompli pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Tout ce qu'il nous faut justement pour vivre dans le paradis. Dieu a tout fait pour cela. Mais là aussi, personne n'est obligé d'aller au paradis. Personne n'est obligé de vivre une vie dans la sainteté. Personne n'est obligé de se repentir. Personne n'est obligé de lire la Bible. Personne n'est obligé de changer de comportement. Personne. Chacun est libre. L'enfer existe à cause et pour ceux qui méprisent les lois de Dieu. L'enfer existe à cause et pour ceux qui pensent qu'ils peuvent se passer de Dieu, qui pensent que les conseils de Dieu, oh, moi j'en ai pas besoin, moi je maîtrise, vous savez. Si vous êtes dans ce cas, alors oui, l'enfer est pour vous. Si vous n'avez pas besoin de Dieu, allez donc dans un endroit où Dieu n'y est pas, tout simplement. La logique de Dieu n'est pas, ne va pas vous sanctionner pour votre propre liberté. Mais Dieu nous prévient. Un jour, Dieu sera obligé de séparer les ténèbres de la lumière. Dieu ne veut pas que nous vivions toujours dans cette sorte de cohabitation où en finalité nous souffrons, nous sommes malheureux, nous sommes frustrés. Non, Dieu veut un jour que chacun de ses enfants qui ont fait pleinement confiance à ce Dieu d'amour puisse enfin vivre cette plénitude de la grâce, cette plénitude de la paix, cette plénitude de la consolation. Parce que notre espérance, elle est là. Ce que l'on goûte de Dieu aujourd'hui n'est que des miettes de ce que l'on connaîtra au paradis, alléluia. Mais ceux qui ne veulent pas de ça, ceux qui prennent plaisir à l'injustice, ceux qui prennent plaisir au mensonge, ceux qui prennent plaisir à l'adultère, continueront leur vie là où ils ont eux-mêmes aujourd'hui trouvé leur plaisir. Un autre mythe de l'enfer, c'est que la Bible en parle, mais qu'un jour, l'enfer disparaîtra. Ah ouais, il y a des gens qui disent ça, notamment les témoins de Jéhovah. Oui, oui, il y a l'enfer. Ah oui, on est obligé de le dire parce que la Bible en parle. Mais vous savez, un jour, tout ça va disparaître. C'est-à-dire que même ceux qui ont refusé le Seigneur Jésus, bon, bah, ils iront pas au paradis. Alors déjà, pour eux, la notion de paradis, c'est déjà très abstrait, mais bon. Alors, Dieu, c'est vrai, il va séparer. Mais au bout d'un moment, ça va disparaître, l'enfer va disparaître. Honnêtement, ce serait tellement bien. J'aimerais que ça se passe comme ça. Parce qu'on ne peut pas se réjouir d'imaginer un seul instant que des hommes et des femmes puissent souffrir une éternité. La description que nous fait honnêtement la Bible. Ce serait bien. Mais pourtant, comme on l'a lu au verset 46, Matthieu, chapitre 25, verset 46, Jésus précise bien les choses. Ceux qui iront au châtiment éternel, mais les justes, la vie éternelle. Alors soit on dit, si l'enfer va s'arrêter, bah, il faut aussi dire que le paradis aussi va s'arrêter.
Mais ça, il n'y a personne qui dit ça. Parce que de toute façon, là aussi, techniquement, c'est pas faisable. Ou si on dit oui, bah oui, le paradis, c'est pour l'éternité, alors faut accepter les paroles que Jésus dit aussi en disant que le châtiment sera aussi d'une durée éternelle.
J'aimerais dire, mais oui, vous inquiétez pas, ça ne dure qu'un temps. Mais en fait, la question ne revient pas de la notion de l'enfer. En fait, c'est la question de l'éternité de l'âme. Parce que nous parlons de l'âme. De l'âme qui vit par le souffle divin. Et Paul le dit, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, « Les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. » En fait, c'est pas que l'enfer sera... La problématique de dire « Mais non, l'enfer, un jour, Dieu, il arrêtera l'enfer et fera disparaître tout ça. » Mais en fait, ce n'est pas possible. L'eau, ça mouille, le feu, ça brûle. L'eau gèle en dessous de 0 degré, ce sont des lois physiques, c'est comme ça. Même si on voudrait que l'eau ça mouille pas quand il pleut et qu'on aimerait que l'eau elle soit pas glacée parce qu'on n'aime pas trop quand c'est trop glacé, c'est comme ça, ce sont des lois physiques, c'est comme ça. C'est irréversible. Ce sont des lois édictées. Et bien il y a des lois spirituelles. Et les lois spirituelles disent que ce qui est visible, c'est passager, ça va pourrir, ça va disparaître, soit. Mais ce qui est invisible est éternel. Et la vraie question, c'est celle-là. Mais si les âmes sont éternelles, ça veut dire qu'elles vont vivre éternellement. Il n'y a pas de point final à l'éternité. Et donc le choix que l'homme fait de son éternité est capital. C'est la question la plus importante à se poser. Même si vous vivez 120 ans sur cette terre, ça va être quoi 120 ans par rapport à l'éternité? Mais même pas une virgule, même pas un point. Ça peut nous donner aussi du courage à nous chrétiens qui vivons dans des moments difficiles. De réaliser que même si on souffre et qu'on peut croire que le temps est long et pénible, vous allez vous apercevoir que dans quelques 3 milliards d'années, ça vous aura paru une simple virgule dans votre existence. Mais c'est ça. Quand on parle d'éternité, on peut parler de 10 milliards d'existences de vie, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que l'on choisit? Nos âmes sont éternelles. Donc notre demeure sera aussi éternelle. En conclusion, je voudrais juste vous donner une petite anecdote. Un jour, j'étais dehors, je me promenais, et je vois un papier par terre. Je comprends que c'est un prospectus, et oh, je ne suis pas très prospectus ni publicité. Mais mon regard est surpris. Parce que sur ce bout de papier, plié en deux, il y avait une question qui était celle-ci. Que faut-il faire pour aller en enfer? Je sais pas ça alors. Je regarde le papier. J'ai bien lu, je prends le papier. Et la question est intéressante. Que faut-il faire pour aller en enfer? Et là, je m'empresse d'ouvrir et en grosses lettres. Il est écrit « Rien ». Et là, on se dit « C'est vrai, ça ?» Il n'y a rien à faire pour aller en enfer. Rien. Parce que, à cause du péché, notre âme est déjà polluée. À cause du travail du malin, notre âme, elle est déjà morte. À cause de notre nature pécheresse, indocile, rebelle, orgueilleuse, on n'a rien à faire pour aller en enfer. Nous sommes comme pas prédisposés à l'enfer, mais nous sommes enclins à aller en enfer. Ce n'est pas une fatalité, attention. L'annonce de l'évangile doit nous permettre d'ouvrir les yeux sur cette réalité de l'enfer et du paradis. Jésus n'a eu de cesse de prêcher la bonne nouvelle. Le but de ce lieu
et d'annoncer le message de la bonne nouvelle. Il n'y a pas de fatalité à l'enfer. Il n'y a rien à faire pour aller en enfer, mais ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire pour entrer dans le paradis, oui. Confesser nos péchés. Nous détourner de nos mauvaises voies et nous attacher à Jésus-Christ. Ce n'est pourtant pas si compliqué. Mais cela nécessite, malgré tout, un effort contraire à notre propre nature, qui voudrait tellement se passer de Dieu, qui voudrait tellement se reposer plutôt sur nos conceptions personnelles, plutôt que le rabâchage de telle ou telle personne. Accepter que des institutions nous disent la vérité. Ah, on n'aime pas ça. On aime, nous, avoir raison. On aime à planifier comment on doit faire les choses. Mais même quand on a dit ça, heureusement que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans notre âme, dans notre cœur. Parce que quand la bonne nouvelle toque à notre cœur, quand le message de l'évangile est écrit noir sur blanc et que nos yeux le découvrent, alors on sait que la vérité est dans la bonne nouvelle. On réalise que Jésus est le chemin. On réalise que son message est le seul message libérateur. Que faut-il pour aller en enfer ? Il n'y a rien à faire, c'est vrai. Mais Dieu a un autre chemin pour nous. Il a une autre invitation. Il a un avenir pour nous. Un avenir d'éternité dans sa présence. Un avenir d'amour, de grâce, de paix, de réconciliation. Un avenir où, oui, on peut aspirer, l'attendre avec impatience. Confessons nos péchés tout simplement. Détournons-nous de nos mauvaises voies. Acceptons d'obéir à sa volonté. Choisissons le chemin de la vérité, de la sainteté. Et il se passera quelque chose d'incroyable. Le Saint-Esprit agira dans votre cœur. L'action du Saint-Esprit sera sur votre vie. Vous sentirez l'approbation de Dieu dans votre être intérieur. L'Esprit de Dieu rendra témoignage à votre esprit que vous serez enfant de Dieu. Vous sentirez un changement de l'intérieur. Vous sentirez un épanouissement. Vous sentirez une délivrance. Vous sentirez un renouveau. Comme on l'a chanté, oui, tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer à zéro. Tout simplement parce que nous aurons décidé de faire quelque chose pour nous rapprocher du paradis et changer le chemin qui nous emmène si naturellement et si inconsciemment en enfer. Amen.